deux mercredis par mois à 17h30 sur 91.2. Retrouvez les ateliers des Valouna, l'émission qui écrit à vos oreilles. Lecture de textes de toutes sortes écrits en atelier.
Des formats courts, toujours.
Des nouvelles.
Poétiques sûrement.
Théâtrales peut-être.
Inclassables parfois.
Écrit libre.
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 En mars 2021, les ateliers d'Evaluna et SOS Discrimination participent avec Jet FM aux semaines contre le racisme et les discriminations en jouant avec les mots. Dans cette émission, nous avons pris en pâture le mot « loin ».
Io vidi una garza mora dando le combatte a un rio.
L'index. Sur le panneau d'affichage situé près de la machine à café, le représentant du personnel punaise la dernière note gouvernementale. Entre deux gorgées, les salariés s'approchent pour en prendre connaissance. À travail de valeur égale, salaire égal. Conformément aux dispositions de la loi en vigueur au 1er mars 2020, l'index de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes doit être déclaré le 1er mars de chaque année sur le site internet de l'entreprise. Il est communiqué au comité social et économique et à l'inspection du travail. Si la somme des indicateurs est inférieure à 75 sur 100, le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance demande à l'entreprise de veiller à améliorer l'index de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en mettant en place des mesures de rattrapage dans le cadre des négociations salariales pour obtenir au moins 75 points sur 100 dans un délai de 3 ans maximum. Une réunion d'information se tiendra le 15 février 2021. Marie, à la retraite dans 2 ans, interpelle la petite nouvelle embauchée. Mazette, pour moi c'est plié, après 40 ans d'inégalité et de salaire inférieur. Et toi, t'es pas prêt de la connaître l'égalité de salaire. Il y aura toujours l'écart de tolérance de 25 points sur 100 en ta défaveur. Ma main a coupé que c'est une loi pendue par des mecs. Avec 3 ans pour gagner un point, ça te fait une marche de progression de 75 ans au mieux. Avec une petite pandémie par-ci, un petit tsunami par-là, on n'est pas loin du siècle. Et je te parie une bouteille de champ que je suis très loin du compte. Imagine, modifier le fonctionnement des neurones, régler le conflit planétaire de l'eau, négocier le nombre de voyages en avion par personne, légiférer pour l'emploi des robots, l'humanité n'est pas sortie de l'auberge. Ben bonne chance ma belle, point, j'ai mis la pédale douce. Tu connais le dicton ? Qui veut voyager loin ménage sa monture. La mienne, je la bichonne comme la prunelle de mes yeux. Regarde comme elle est belle. Tiens, tu veux l'adresse de mon opticien ? C'est un bon, tu sais. Attends, faut que je lui demande s'il est dans les clous avec son index d'égalité.
C'est un drôle de mot, loin. La langue française n'en fait pas grand-chose, à part le mot « lointain » et des expressions pleines de sous-entendus comme « il revient de loin ». Loin, mot courant, mot vague, mot pas si anodin pourtant. Que pensons-nous loin? Que jugeons-nous loin? Exotisme? Ignorance? Exil? Indifférence? Il y a le loin inaccessible ou presque, le loin inconnu, le loin dont on rêve ou que l'on fuit, le loin romantique, le loin mythique. Quand nous entendons « loin », pensons-nous au loin spatial, à cet ailleurs, à cette distance étendue ou infinie? Pensons-nous au loin temporel, à cet avant disparu, à cet après inconnu, à l'oubli ou à la mémoire? Loin de nos esprits, loin de nos cœurs, c'est le loin de l'indifférence le pire. Qu'est-ce qui est loin? Ce qui est au-delà d'une limite sempiternelle ou éphémère, au-delà d'une limite, barrière ou frontière. Qui décide de cette barrière? Y a-t-il un loin objectif? Qu'est-ce qui est vraiment loin? Où est l'au-delà? La Lune nous semble aujourd'hui moins loin qu'hier, tandis que les terres promises se font toujours plus lointaines. Comme le mot inférieur, le mot loin se dessine en creux, en ombre. Nous parlons de nos proches. Nous ne parlons pas de nos loins, ceux dont on n'a rien à faire, ceux que l'ignorance éloigne et dissimule comme une tempête de sable.
Si loin. Qui rêve si loin de moi-même au moment de rêver? Qui pleure si loin de moi-même au moment de pleurer? Qui chante si loin de moi-même au moment de chanter? Qui marche si loin de moi-même au moment de marcher? Qui rit si loin de moi-même au moment de rire? Qui danse si loin de moi-même au moment de danser? Qui aime si loin de moi-même au moment d'aimer? Qui tremble si loin de moi-même au moment de trembler? Qui tombe et se relève si loin de moi-même au moment de tomber et de me relever? Qui se révolte si loin de moi-même au moment de me révolter? Qui espère si loin de moi-même au moment d'espérer? Si loin et si proche d'une poignée de main tendue, si loin et si semblable à cœur de pierre fondue.
Les paroles qui suivent ont été écrites avec les jeunes mineurs isolés de l'école Hors les Murs et leur coordinateur. C'était à Nantes, en atelier d'écriture, entre le 24 et le 27 février 2020. Ces paroles ont été écrites à partir de propositions de mots. Surtout, elles ont été écrites à partir du cœur des participants, de leurs pensées et de leurs expériences déjà denses. Les noms sont d'emprunt, les histoires rarement fictives et les mots sont vrais. Ils ont condensé à l'extrême ce qui dans leur vie représentait un immense chapitre. Nous proposons quelques extraits d'un recueil pour lequel ils ont choisi le titre « Paroles historiques de jeunes immigrés ». Ils n'ont pas voulu le terme de « migrant » qui désigne ceux qui le portent comme d'éternels voyageurs. Ils ont préféré le mot « immigré » venus de loin, ils sont arrivés là où ils devaient aller et ils souhaitent y rester.
Les cris qui se savent inécoutés enveloppent un horrible silence. Tu peux pleurer, tu peux crier, tu peux vomir, tu ne sauras jamais pourquoi tu es né. Tu peux gémir, tu peux cracher, tu peux maudire, tu ne sauras jamais pourquoi tu es né. Décadence, décadence, décadence. Le problème n'est pas celui du citoyen, mais celui de l'homme. Lorsque l'humanité sera enfin sage, nous passerons de la compétition dans l'individualisme à l'individualité, dans la coopération. Renaissance, renaissance, renaissance. Quand tu pourras douter et croire, douter et agir, douter et vouloir. Tu seras sauvé lorsque l'humanité sera enfin sage. Nous passerons de la compétition dans l'individualisme à l'individualité dans la...
Rêve. Je suis S, je viens du Tchad, j'ai l'âge de 16 ans. J'ai mon rêve comme les autres jeunes. Malheureusement, comme pour les autres jeunes comme moi, ça ne s'est pas bien passé. Dès mon enfance, j'ai été séparée de ma mère. J'ai vécu avec ma belle-mère et c'était tellement différent et plus difficile. J'ai été grondée, traitée comme le domestique de la maison. J'étais en vie, mais je n'ai eu ni amour, ni respect de la famille. Tout le temps seule, personne pour s'occuper de moi comme font les parents avec les enfants de mon âge. Jamais je n'ai reçu un seul remerciement de ma belle-mère. Par contre, s'il y avait du bordel à la maison, j'étais la première personne accusée. J'ai vécu la violence physique partout sur mon corps. Le jour où j'ai perdu mon père, j'étais terriblement choquée. Je n'arrivais pas à comprendre le décès de mon père. C'était tellement dur et choquant pour moi. Après le décès de mon père, ma belle-mère a décidé que je quittais la maison. Il fallait chercher ma mère. Ma belle-mère n'était pas responsable de moi. Voilà, je l'ai quittée. Ma mère, je l'ai cherchée et je la cherche. Elle me manque encore aujourd'hui. Je sais que c'est plus difficile de la retrouver maintenant, car il y a beaucoup de distance entre nous, mais rien n'est impossible. Je rêve de la rencontrer et de rattraper tout le temps perdu. La vie a été injuste avec moi, mais Dieu merci, je suis en vie. Pour le moment, je suis avec des personnes qui m'ont reçu mieux que j'avais été reçue par ma famille. Je me battrai pour changer ma vie. Je rêve de lutter contre la violence et l'injustice, car je ne suis pas seule. Et il y en a de plus en plus qui sont dans la même situation que moi. Mon objectif est de continuer mes études et d'être journaliste. Je rêve d'écrire mon livre, le livre de mon histoire. S. Récitation. Mon ballon, il est tout rond. Je le lance, il s'en va, il revient, je le rattrape. Mon ballon, il est tout rond. Je m'appelle M. Je suis une jeune mineure migrante non reconnue sur le territoire français et je me battrai pour la réussite de mon avenir.
Liberté, égalité, fraternité, en guise de devise pour que rien ne nous divise. Liberté, égalité, fraternité, un mot qui donne du bon sens à la France.
Lettre à maman. Très chère maman, je viens très respectueusement auprès de vous pour vous annoncer que je suis arrivée en France, précisément à Nantes. Avant tout, d'abord, recevez mes salutations les plus distinguées. En fait, le début n'a pas été facile pour moi. Quitter la Guinée, traverser le Mali, l'Algérie, la Libye, la Tunisie, et enfin, traverser la mer pour rejoindre l'Europe. Maman, je vous informe que la cause de mon départ était que toute une communauté s'est révoltée contre moi, quand j'ai fait la sensibilisation à la lutte contre l'excision. Le chef de la ville pensait que je faisais la promotion de la religion chrétienne, la religion de mon grand-père. Tout le village s'est révolté contre moi et j'ai eu des menaces de mort. C'est pourquoi j'ai vendu le terrain de papa pour rejoindre l'Europe. Je suis vraiment navrée de ne pas avoir pu vous informer de cette situation. Merci maman, je compte sur votre bonne compréhension. Ok mon fils. J'ai passé un mois et deux semaines à pleurer car je n'avais aucune nouvelle de toi. J'avais même pensé que tu étais mort, mais Dieu merci, je viens d'avoir de tes nouvelles. Je suis vraiment contente de toi. Que Dieu te protège pour moi, que Dieu te bénisse dans ta nouvelle aventure. Mais surtout n'oublie pas ta famille et surtout reste sérieux là-bas mon fils. Alfred.
Coopérer. Coopérer, ça me fait penser à la situation de migrants. Je suis né avec un passeport à Libreville au Gabon. Plus tard, je suis arrivé en France. J'ai fait une formation dans un lycée comme électricien. J'étais dans un collège public à Rennes. À Anken, je me suis fait contrôler. Je n'avais pas les titres de séjour, mais un passeport. J'avais un passeport, mais pas les titres de séjour. J'ai été contrôlé par la police des gares. Ils ont vu que j'étais migrant, ils m'ont laissé partir. Aujourd'hui, j'ai perdu mon passeport. Je n'ai pas pu le renouveler, mais je compte le faire. J'ai souvent été seul. Il y a un personnage que j'admire, c'est Martin Luther King. Il s'est battu toute sa vie pour aider des gens. Je préfère me taire, sinon c'est inutile. Ma plus grosse peur, ce fut lors de la traversée de la Méditerranée pour atteindre le continent européen. Lors de la traversée, j'ai dû faire face à des situations qui ont réussi à engendrer une grosse peur en moi. Au Maroc, j'ai vécu en forêt jusqu'au jour où j'ai été secouru par des gardes-côtes espagnols. J'ai eu à passer des jours sans manger ni boire. J'ai passé des nuits blanches car nous étions obligés de nous mettre en condition pour pouvoir prendre la fuite. Nous étions pourchassés, maltraités et emprisonnés par la police marocaine. J'ai passé 4 jours avant d'avoir accès aux côtes marocaines qui pouvaient nous permettre de traverser la Méditerranée. Durant ces 4 jours, je n'ai eu à manger qu'une seule fois. J'ai eu éperdument peur de constater que nous devions monter à bord d'un Zodiac et non sur un bateau. Là, j'ai dû décider de renoncer à l'aventure. Mais j'étais contraint de monter, sinon on me tuait. Quand nous fûmes sur le Zodiac, quand nous allions atteindre la zone européenne, nous avons été interceptés par un bateau portugais. Il a fallu arrêter le moteur du Zodiac pendant une demi-heure sans que personne ne soit venu nous parler. Or, les vagues essayaient de renverser le Zodiac. Il y avait des cris par-ci par-là.
Like a bird on a wire, like a drunk in a midnight choir.
Terre promise. Venir de si loin, c'est pas partir de rien, mais avoir si peu. Partir si loin vers un ailleurs, une terre promise, partir à Dash, au diable Vauvert, à Perpète les oies. Se carapater à perdre haleine, chargé de peine, tenter le tout pour le tout, faire la nique à la malchance. Marcher et marcher encore. Faire le dangereux voyage, prendre les voiles, prendre le large, sur un canot de fortune. Se faire la malle ou le baluchon, fuir la misère ou la peur, ne plus avoir le choix. Troquer le malheur contre un espoir acharné. S'autoriser à croire enfin, rien qu'un peu, un chouïa en sa bonne étoile. Ne pas se résigner. Sœurs et frères d'infortune, venir de si loin, si proche de nous. Derrière nos paupières lourdes, vos regards à la distance d'un battement de cils. You know it was never to you. Like a baby still born. Like a
Mais qui sont nos plus proches voisins? Il y a nos voisins. Il y a nos proches. Qui sont notre famille ou des amis qui ont passé tant de temps dans notre cercle familial qu'ils semblent appartenir à notre famille. Mais qui sont nos plus proches voisins? C'est de cela que je voudrais vous causer aujourd'hui. Nos plus proches voisins sont toujours dans nos pas. Dès que nous devons sortir de chez nous, nous semblons avoir l'obligation de prévenir ces voisins de nos faits et gestes. Je vais faire une course. Je vais me promener, ce sera court. Ce sont eux qui vous permettent de garder une dignité sociale. Si par quelque raison, vous vous laissiez aller, vous remarqueriez dans leur regard une désapprobation. Vos plus proches voisins sont comme ces gouvernantes qui assurent la bonne tenue des grandes maisons. Remerciez vos plus proches voisins. Louez vos plus proches voisins des remarques qu'ils vous font, comme s'ils vous suivaient jusque... Vous auriez aimé que je vous dise que vos plus proches voisins sont ces liens que vous avez tissés avec des personnes à l'autre bout du monde, dont il vous semble qu'ils sont plus proches de vous que vos plus proches voisins. Eh bien non, car ces gens si éloignés ne connaissent votre vie que telle que vous la rêvez.
FM 91.2, les ateliers des Valounais.
On peut être loin sans avoir fait beaucoup de chemin, comme ceux, si nombreux aujourd'hui, enfermés, isolés, malades. Ils vivent dans un autre monde, tirant espoir d'une fenêtre ouverte, une main tendue, la promesse d'une sortie. Vous allez entendre le témoignage de Lydie. Elle participait depuis belle lurette aux ateliers d'écriture, écrivante enthousiaste. Puis, un jour d'octobre, nous l'avons perdue de vue. Il nous a fallu quelques mois pour la retrouver. Il lui en a fallu plus pour retrouver l'énergie de raconter un peu, en pointillé, son voyage vers des contrées lointaines. De justesse. Je me réveille dans la plus grande confusion. Je ne sais pas où je suis. Une voix féminine inconnue me dit que je suis en réanimation au CHR Nord de Nantes. Et ce, depuis 9 jours. La Covid-19 s'est attaquée à moi. Je suis intubée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est mon frère qui a déclenché les secours. Il me dira plus tard que la Covid-19 a provoqué 2 AVC et une crise cardiaque. Diagnostic fait par les urgentistes qui m'ont pris en charge chez moi et m'ont sauvé la vie par leur efficacité, m'a dit mon frère. J'ai avalé le contenu d'une bouteille d'oxygène en un temps record, tellement j'étais en insuffisance respiratoire. J'étais dans le coma, le bout des doigts tout bleu. J'ai du mal à réaliser. Du service réanimation où je suis, on me transfère aux urgences du CHU. Je suis toujours désorientée. Je ne suis plus intubée. Mais j'ai les cordes vocales abîmées. Je suis muette. C'est épouvantable. Je ne peux pas me faire comprendre. En plus, je suis attachée au lit. Trop agitée, m'a-t-on dit. J'arrive à me détacher. Je veux partir, rentrer chez moi. Je n'ai pas de chaussures, je n'ai pas d'argent. J'élabore un plan. J'emprunterai les chaussures et le manteau de ma voisine de lit. Pour le reste, j'aviserai. Mais une nuit, je suis transférée à l'hôpital de Viviers en Argonne, dans les Ardennes, où le personnel médical s'affaire à me sauver la vie. J'entends « on ne peut plus la piquer dans les bras, il faut trouver un autre endroit ». Et me voilà torturée sur les pieds par des seringues. Voilà, pourquoi? Mais pourquoi? Heureusement, mon calvaire prend fin momentanément. Je sombre dans un sommeil agité, je me réveille, attachée au lit, dans une chambre de la maison du général de Gaulle. Sur le mur, je vois un cadre, un texte y est écrit « Hommage à Lydie Bossard ». Je ne comprends pas ce que cela veut dire. Puis, nouveau transfert au CHU Nantes Nord. Je veux partir de cet endroit pour rentrer chez moi. Là, je descends du lit et je m'accroche à un chariot qui se trouve à proximité. Je dérape, je ne sais plus marcher. Ma tête cogne par terre. Des aides-soignants arrivent, me relèvent, me mettent sur un brancard et m'emmènent immédiatement passer un scanner. Pas de mal. Un psychiatre vient me voir. Il me dit que j'ai tenu des propos incohérents. Je veux bien le croire. Il me rappelle que je suis infectée par la Covid-19. Mais je réponds non. J'ai été victime d'un empoisonnement. Le personnel soignant me l'a dit. Il se moquait de moi. L'agresseur est bien Covid-19. Tout se mélange dans ma tête. Je suis très agitée. On ne m'attache pas au lit cette fois-ci, on me donne un comprimé qui m'envoie dans un sommeil profond. Cette nuit-là, je n'entends pas les ronflements de ma voisine de chambre, qui d'ordinaire me tiennent éveillée et m'exaspèrent. Je demeure dans l'anxiété. Je ne sais plus écrire. Je n'arrive plus à former les lettres de l'alphabet. Mon cerveau est récalcitrant et ma main est verrouillée. Aussi, tant que je peux, je noircis du papier avec des lettres et des chiffres, pour retrouver la mobilité de ma main. Difficile. Petit à petit, je retrouve mes cordes vocales. Ma gorge est irritée et me fait mal. Au fur et à mesure des jours qui passent, le mal s'estompe, mais ma voix reste légèrement voilée. Tant pis. On me change de chambre. Je suis seule désormais. Je n'entends aucun bruit dans les couloirs. C'est l'occasion de m'esquiver pour rentrer chez moi. Je descends du lit, je ne sais pas comment. Je m'agrippe à un chariot tout proche. Je dérape. Je m'affale par terre. Mon nez cogne contre le sol. Mon visage baigne dans une substance visqueuse imbibée de sang. Je ne peux pas sonner les aides-soignants. Quelque temps après, On arrive dans la chambre et j'entends dire « Où est-elle ? Mais où est-elle ? La voilà ! Vite, un scanner !» Résultat, aucun dommage à la tête, sauf mon nez, cassé en frappant le sol. Ce sera ma dernière tentative pour rentrer chez moi. Puis je suis transférée vers un centre de soins. 48 heures après, emmenée en urgence au CHU Nantes Centre-Ville en raison d'une hémorragie à l'estomac. Je subis 2 perfusions et 3 transfusions, puis 2 fibroscopies. La première pour vérifier ce qui se passe dans l'estomac, la seconde quelques jours après pour cautériser 2 ulcères qui ont été vus lors de la première fibroscopie. Le chirurgien me dit qu'il est le meilleur de l'Ouest. Je trouve la force de m'en amuser avec lui avant qu'il ne procède à la cautérisation qui se passe bien. Ces 2 ulcères ont été révélés par la Covid-19. Oserais-je dire que j'ai de la chance dans mon malheur ? Puis, nouveau transfert dans un autre service, toujours au CHU Nantes Centre-Ville, où je suis très entourée par les soignants. Les 2 jeunes internes qui me suivent m'apprennent que mon corps a utilisé beaucoup de ses réserves pour combattre la Covid-19. Mes muscles ont fondu. Le cœur étant un muscle, je suis en danger de mort si je ne mange pas. Je dois manger hyperprotéiné pour reconstituer les muscles. Et j'entends tout le personnel soignant m'accabler du leitmotiv hyperprotéiné, hyperprotéiné. Oh, qu'à cela ne tienne! Or, les repas que l'on me sert ne sont pas hyperprotéinés. Je le fais remarquer à toutes les personnes qui s'approchent de mon lit. J'exige des protéines puisque ma vie en dépend. Puis, au bout de quelques jours, les repas hyperprotéinés me sont servis. Je ne suis plus obligée de me battre. Je suis épuisée, mais soulagée. Quelque temps plus tard, je suis mise sous oxygène pendant plusieurs jours. J'en ai oublié la raison. Autre souci, depuis que je me sais en danger de mort, je ne dors plus. Peur de ne pas me réveiller ? J'évoque le sujet avec les médecins et la psychologue du service. Les médecins admettent qu'ils y sont peut-être allés un peu fort. Mais l'insomnie continue, malgré les efforts du personnel médical, pour m'aider à surmonter cette peur. Terrifiée, je demande à dormir avec une petite lumière, comme une enfant qui a peur du noir. Puis, je suis à nouveau envoyée dans le centre de soins où j'étais restée 48 heures. Là, je n'ai plus d'insomnie. Je suis entourée par un personnel soignant de haute volée, très humain, sollicitant des efforts sans les imposer. La rééducation pour réapprendre à marcher est très difficile, mais je progresse chaque jour. Les exercices de kiné me fatiguent beaucoup. Je dois aussi tenir compte des terribles fatigues liées à la Covid-19. Elles arrivent sans crier gare. Le sommeil de la nuit me permet de récupérer et d'aborder en forme chaque jour nouveau. J'ai beaucoup de chance. Le vendredi 25 décembre, dans l'après-midi, le personnel soignant est venu nous solliciter pour assister à un concert imprévu. 2 jeunes musiciens, une violoniste et un violoncelliste, sont venus rendre visite à leur grand-mère en convalescence dans le centre de soins et ils ont proposé de donner ce concert pour l'ensemble des résidents. Ils ont joué des chants de Noël et Jean-Sébastien Bach. Moment magique qui m'a momentanément fait tout oublier. Désormais, chaque jour, je poursuis ma rééducation. Mon seul objectif étant de rentrer chez moi en totale autonomie.
Oh yeah! Oh yeah!
Durant tout le mois de mars ont lieu les semaines contre les discriminations, programme à suivre sur le site des SECD. Les ateliers d'Evaluna proposent des émissions spéciales en lien avec les SECD. Prochaine émission, le 24 mars. Vous trouverez tous les détails sur le site de Jet FM à la rubrique « Les ateliers d'Evaluna ». Nous finissons avec un loin, un peu plus gai. T'avais qu'à pas. T'avais qu'à pas, Titi. T'avais qu'à pas. Qu'à pas, qu'à pas. T'avais qu'à pas partir là-bas. Ton cop t'avait dit, t'es pas cap. Toi t'as dit si, t'as dit t'étais cap. Ton cop t'a dit chiche, t'as pris tes clics et tes claques, t'as tout quitté, tout ta traque. T'as mis les bouts, t'as pris la mer. T'es où, t'es où? T'avais qu'à pas, Titi, quitter ta terre. tenter la mer. T'es où ? T'es où, Titi ? T'as le mal de mer, j'espère. Car je suis ta mère et tu me désespères. T'avais qu'à pas, Titi. T'avais qu'à pas. Qu'à pas. Qu'à pas.
Eh oh, Titi, mon ami, écoute pas. T'es dans ta fuite. T'es dans ta route. T'es dans ton droit. Dis, Titi, ça te tenterait pas de la faire taire, ta mère ?
Les auteurs des textes étaient dans l'ordre de passage. Claire Dovy, Muriel B., les jeunes mineurs isolés de l'école Hors les Murs, Ronan Chevillé et la compagnie Mouradi, Lydie Bossard et Martine Dupeux. Cette émission a été réalisée par Sylvie Bauget avec les voix de Marie-Jeanne, montage Hélène et Luc. Le fil musical de l'émission était Cinnamon de Nina Simone. Retrouvez tous les crédits musicaux sur jetfm.fr. Ces textes, écrits par les jeunes immigrés, étaient lus par Matteo et Maïlise.